Les matins de France Culture. Florian Delorme.
Retour sur les violences du milieu de semaine lors de la fête des travailleurs du 1er mai. Si globalement les violences ont été contenues et que la journée de l'apocalypse annoncée sur les réseaux sociaux n'a pas eu lieu, il n'en demeure pas moins que violence il y a eu et comme très souvent maintenant, des groupes d'émeutiers se sont adonnés à des actes de casse et de vandalisme. Alors comment comprendre ces logiques derrière ces mouvements qu'on appelle Black Bloc? Comment opèrent-ils? Qui sont-ils? Comment comprendre qu'ils jouissent d'une certaine tolérance, voire bienveillance de la part d'une partie de l'opinion? Quelle charpente idéologique derrière tout ça aussi? Bonjour Sylvain Boulouk.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, enseignant dans l'université Paris-Nanterre et Sergi Pontoise, un spécialiste de l'ultra-gauche. Mercredi, Sylvain Boulouk, la situation, je le disais, a été globalement maîtrisée. Le dispositif policier a semblé en mesure d'éviter le pire, parvenant à éviter notamment la plupart du temps les rassemblements de Black Bloc. Mais quand même, force est de constater qu'on ne parvient pas à totalement empêcher les explosions de violence de la part de certains groupes, malgré les arrestations, qu'elles soient préventives ou directement sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont insaisissables et il faut s'habituer. On ne pourra pas éviter qu'ils continuent à parasiter les mobilisations.
Alors, ce qu'on appelle les Black Blocs improprement, puisqu'en fait, c'est une pratique manifestante qui est le fait qu'un certain nombre de personnes dans les manifestations vont se couvrir, se vêtir de noir, imperméable noir, lunettes et foulard autour du visage pour aller affronter les forces de l'ordre d'un côté et de l'autre côté procéder à un certain nombre d'attaques contre des biens symboliques de ce qui représente l'économie capitaliste. À partir de ce moment-là, vous avez une pratique qui est une pratique manifestante où nombre de manifestants peuvent se joindre au Black Bloc sans que ce soit sans qu'il y ait un groupe identifié initialement. C'est beaucoup plus une pratique de rue que qu'un groupe politique en fait. Donc c'est un certain nombre de personnes qui à un moment T décident de se rassembler dans ce Black Bloc. À partir de ce moment-là, ils sont beaucoup moins cernables et définissables que si c'était un groupe politique identifié. Donc alors après on sait que globalement
quand même ils sont identifiables au sens où vous l'avez dit. Ils sont souvent en noir, avec des masques, oui. Cagoulés. À partir du moment où on les identifie alors, comme tels, comment est-ce qu'ils font pour alors, après les rassemblements, se fondre à nouveau dans la foule?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'ils bénéficient d'une empathie, d'une partie de ce qu'on appelle le cortège de tête. Donc, avant le cortège syndical, vous avez un certain nombre de personnes qui sont dans les manifestations et qui forment ce qu'on appelle le cortège de tête. Ce cortège de tête est donc en empathie plutôt avec le Black Bloc et va permettre aux personnes qui participent au Black Bloc de se changer entre guillemets à l'abri des regards et des caméras et donc à partir de
ils changent de vêtements
ouais. Donc se couvrir au moment où il va falloir passer entre guillemets à l'action et donc ils sont beaucoup moins facilement cernables et reconnaissables que s'ils arrivaient directement masqués et couverts dès le début de la manifestation. C'est parce que il y a une empathie avec un certain nombre d'autres personnes que le Black Bloc peut se constituer. C'est un phénomène.
Comment vous comprenez cette empathie, cette forme de bienveillance? Parce qu'effectivement, elle existe. Hier, on l'a encore vu. Quand il y a des rassemblements de Black Bloc, d'abord, on laisse faire. Parfois même, on encourage et même on applaudit. On l'a vu hier encore dans certaines vidéos. Comment le comprendre?
Il y a toute une partie plutôt de la gauche anticapitaliste, mais aujourd'hui ça s'est étendu à ce qu'on pourrait appeler le phénomène gilet jaune, alors même si c'est assez compliqué à définir, mais il y a une empathie globale d'une partie de la population pour cette forme de manifestation et ces affrontements. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de porosité qui peuvent exister et qui expliquent que les Black Blocs ne soient pas, le Black Bloc ne soit pas attaqué, enfin dénoncé par les autres manifestants. Puisqu'ils sont en empathie et qu'il y a une partie de cette mouvance qui est tout aussi anticapitaliste, alors même si elle ne va pas choisir des formes de violence ou des formes d'attaque symbolique contre le système, mais qui partage un fond commun qui est l'anticapitalisme. Après, c'est un anticapitalisme extrêmement variable, puisque vous avez dans cette mouvance des libertaires, des autonomes, des marxistes-léninistes sous différentes obédiences.
On va revenir justement sur les idéologies qu'il y a derrière, mais vous parlez d'empathie. Moi, j'évoquais la bienveillance. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il y a toujours eu cette forme d'empathie envers les casseurs? On a vu beaucoup de manifestations où il n'y avait absolument pas cette empathie-là. Alors, est-ce que c'est nouveau? Et De quoi est-elle le fruit? Est-ce que on a parlé régulièrement de violences policières? Est-ce que c'est pas ça, cette montée en puissance des violences policières, qui fait que justement on a une montée en puissance de l'empathie?
Il y a deux choses. Le rapport de la gauche à la violence est quelque chose qui a existé par le passé. Si on prend les manifestations des années 70, pour préparer le 1er mai entre guillemets, je vais vérifier, les sur un certain nombre d'archives visuelles ou sonores des 1er mai à partir de 1968, c'est quand même les affrontements violents étaient extrêmement fréquents. Donc, il y a, entre guillemets, rien de nouveau sous le soleil, sauf que pendant 20 ans, il s'est pratiquement rien passé, qu'on avait oublié que le 1er mai et les manifestations pouvaient être violentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la question des violences policières, il y a effectivement tout un tas de manifestants qui sont soudés par cette question des violences policières. Souvent, quand on voit un certain nombre de manifestations, effectivement, il y a un usage tellement important des gaz lacrymogènes et une violence physique des forces de l'ordre qui fait qu'il y a une détestation grandissante des manifestants vis-à-vis des forces de l'ordre. Un des slogans qui est repris dans l'ensemble des manifestations, qui est « Tout le monde déteste la police », au départ, il était marginal. Maintenant, dans l'ensemble de ces manifestations gilets jaunes ou autres, ce slogan est repris comme un terme de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre de manière extrêmement fréquente et il est quasiment constant. Quoi. Dès que les manifestants croisent un cordon de CRS, ce slogan est repris.
Sylvain Boulouk, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce qui s'est passé hier à l'hôpital de la Salpêtrière. Alors, les versions, les interprétations divergent sur ce qui s'est passé. Certains expliquent que des manifestants sont rentrés pour se protéger. D'autres évoquent des groupes venus sur place pour casser voler. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a parlé d'une attaque sur l'hôpital de la Salpêtrière. Et la ministre de la Santé, ensuite, Agnès Buzyn, est venue. Elle a nuancé un tout petit peu les choses en parlant d'intrusion. Il se trouve que finalement, il s'agissait pas de groupes violents et que, après plusieurs minutes de charge des policiers et la tentative de ces manifestants de s'enfuir par les locaux, eh bien, les policiers ont fini par comprendre qu'on n'avait pas là des groupes violents et donc le calme est revenu un peu tout seul. C'est en tout cas ce que montre l'ensemble des vidéos qui sont sorties hier. Mais est-ce qu'il aurait été possible, Sylvain Boulouk, plausible, que des groupes de casseurs aient pris intentionnellement pour cible un hôpital? Est-ce que ça pourrait rentrer dans la nature des cibles auxquelles ils s'en prennent habituellement?
A priori, non. Alors, plusieurs choses sur cet événement. Alors, d'après ce qu'on peut voir sur les vidéos, la première, une des vidéos qui a été plus ou moins passée sous silence ou peu évoquée, c'est celle où on voit justement les manifestants rentrer dans l'hôpital. En fait, ils n'ont pas l'impression de rentrer dans un hôpital, ils rentrent plutôt dans une allée, et il y a marqué « centre universitaire » sur la porte de l'allée. Il y a centre universitaire hospitalier, ça veut dire que pour eux, ils ne rentrent pas forcément dans un hôpital. Bon, ça, c'est peut-être...
Enfin, il y a quand même une grille.
Il y a une grille. Ils passent la grille, ça, c'est évident. Ils cassent ils démontent le cordon...
Le cadenas.
Le cadenas de sécurité qui tenait la grille. Pour, visiblement, se réfugier, on voit très très bien que derrière, il y a des nuages de gaz lacrymogènes qui font qu'ils cherchent à éviter les gaz lacrymogènes. Ça, c'est pour la partie peut-être anecdotique de la chose. La deuxième chose, c'est sur les hôpitaux. A priori, cette mouvance n'est pas hostile à l'hôpital public et a tendance quand même à plutôt préserver ce qui peut être les services publics. Je vais prendre un autre exemple pour répondre à cette interrogation. Il y a quelques années, au moment de la loi travail, il y avait eu une tentative de dégradation de l'hôpital Necker. Il y avait une manifestation où un certain nombre de manifestants, les manifestants étaient passés devant l'hôpital Necker. Et ça avait fait un scandale parce que les médias avaient dit, oui, regardez, des manifestants s'en prennent à l'hôpital Necker et tentent de détruire l'hôpital Necker. Or, quand on regarde les vidéos qui ont pu être prises sur cet événement, vous avez effectivement une personne qui s'en prend à la façade de l'hôpital Necker et vous voyez tout de suite les autres membres du Black Bloc en train de lui dire non, tu fais pas ça, c'est un hôpital, on s'attaque pas aux hôpitaux. Donc vous avez normalement les cibles privilégiées du Black Bloc sont principalement les signes extérieurs, les signes ostensibles du capitalisme, que ce soit les grandes marques ou que ce soit les chaînes de restauration rapide.
Donc dans l'hypothèse où il serait rentré dans le service de réanimation, et il n'aurait pas fait un saccage, a priori.
D'accord. Après, on peut jamais éviter qu'il y ait...
Mais dans la logique, disons, Black Bloc, a priori. Ouais.
Dans la logique, c'est pas ça. Après, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a l'autre logique qui est une logique gilet jaune qui se résume au slogan qu'il y avait eu sur l'Arc de Triomphe, qui est une idéologie, qui devient une idéologie en soi, qui est gilet jaune triompheront. Donc ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent ailleurs jouer sur cette dimension où on pourrait avoir une autonomisation d'un groupe social qui porte une idéologie dont on n'arrive pas à définir les contours. C'est aussi possible, même si je pense que l'hôpital en général, même chez qui que ce soit, c'est pas quelque chose où il va y avoir des attaques ciblées.
Sylvain Boulouk, on se demande ce matin d'où vient cette violence dans les manifestations. Il faut regarder aussi les choses du côté des policiers. Depuis hier, il y a aussi une polémique autour de la question de savoir si les forces de police sont ciblées ou non la CGT. Son leader, Philippe Martinez, avait été pris dans les violences entre les Black Blocs justement et les policiers. Et pour lui, la CGT a été intentionnellement chargée, visée par les policiers, alors que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dément tout ciblage. Est-ce qu'un ciblage intentionnel de Philippe Martinez et la CGT est possible, plausible? Même question, mais du côté du policier. Et est-ce que, plus globalement, vous diriez que le dispositif policier tel qu'il est déployé aujourd'hui pour répondre à ces violences constitue une entrave au droit de manifester et donc peut-être produit aussi en retour une nouvelle forme de violence?
Alors, il y a plusieurs choses. Le problème, c'est qu'on voit que des vidéos partielles et partiales. Les échos qu'on peut avoir de cette charge policière sur le service d'ordre de la CGT. On voit parfaitement une compagnie de CRS en train de charger le SO, le service d'ordre de la CGT, et le service d'ordre de la CGT en retour de répondre mais arrêtez, on est le cortège officiel du 1er mai. Et les CRS reculent après avoir molesté quelques responsables ou quelques membres du service d'ordre. Donc il y a effectivement une charge qu'on peut voir. Après, comme on n'a pas une vue d'ensemble sur la vidéo, il est relativement difficile de savoir ce qui se passait derrière. Toujours est-il qu'il y a eu charge intentionnelle et tir de gaz lacrymogène sur les responsables de la CGT, au point que par ailleurs les responsables de la FSU, donc la Fédération syndicale unitaire, les enseignants, ont quitté le cortège en disant on peut pas rester dans un cortège où on se fait tirer dessus par les forces de l'ordre. Donc vous avez cette dimension qui existe. Alors après, est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est intentionnel? Toujours est-il qu'on est dans une logique policière, alors qui n'est pas sans rappeler un certain nombre d'autres logiques dans l'histoire de France, puisque quand vous avez un ministre de l'Intérieur, et ça c'est le phénomène depuis Clémenceau, voire même avant, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit je suis là pour maintenir l'ordre et vous avez le droit, et qui dit aux forces de l'ordre vous avez le droit d'agir comme vous l'entendez, effectivement il y a une progression de la violence policière. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a le rôle du préfet de police qui en l'occurrence a eu tendance à non plus de contenir ces hommes. C'est pas le cas de... Si vous voulez, on n'est pas dans la logique de Grimaud en 1968 qui essayait au maximum de limiter les affrontements pour éviter justement que la violence soit trop forte. Là, on est plutôt dans un cas où le préfet tend à utiliser au maximum la violence pour contenir les forces de l'ordre.
Oui, parce qu'on a vu que quand on essayait de l'éviter, ça donnait pas de résultat. C'est-à-dire que si on faisait l'hypothèse qu'il n'y a aucune violence policière, que le maintien de l'ordre se fait dans le plus grand pacifisme, on n'aurait pas la disparition des Black Blocs.
Mais après, il y a autre chose, c'est que là aussi, la même chose, sur un certain nombre de vidéos, on voit des scènes de violence policière qui sont caractérisées.
Notamment, on a vu un policier qui envoyait un pavé.
Oui, ou un policier qui tape une personne âgée sans raison apparente.
Sylvain Boulouk, est-ce qu'on peut faire une sociologie des Black Blocs? Est-ce qu'il y a des profils types, des parcours, des positionnements politiques?
Alors, les Black Blocs en tant que tels vont pas vous dire j'ai participé au Black Bloc, dans la mesure où on est quand même aux marges de la légalité et ça peut leur coûter un certain nombre de semaines, voire de mois de prison. Donc il n'y a pas de, là aussi, il faut se méfier. Les gens qui disent « je suis membre du Black Bloc », normalement, les traditions veulent qu'ils ne le disent pas officiellement. Après, on sait par ailleurs, par porosité toujours avec c'est une mouvance beaucoup plus large, que les membres du Black Bloc sont une donnée assez plus compliquée que l'imaginaire qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'on a des gens de 20 ans à la cinquantaine. Il suffit de courir relativement vite pour pouvoir participer au Black Bloc. Première chose. Deuxième chose, c'est un groupe qui est mixte, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a environ... alors. Après, c'est la même chose, hein, avec sous réserve d'inventaire complet qu'on n'aura jamais. On a environ 40% de femmes pour 60% d'hommes, donc une certaine forme de mixité. Troisième élément, c'est les variétés socio-professionnelles. Là aussi, bon, alors après, ceux qui sont interpellés sont pas forcément les plus aguerris. Mais d'après ce qu'on peut voir, on a aussi bien de jeunes ouvriers que des professions intellectuelles supérieures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Et sur le positionnement politique ?
Sur le positionnement politique, jusqu'à maintenant, c'était principalement des gens qui étaient proches des formes de la gauche anticapitaliste, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir des anarchistes, de ce qu'on appelle les autonomes, des militants marxistes-léninistes sous différentes obédiences, qu'ils soient trotskistes, maoïstes, quelques écologistes radicaux, toutes les formes de la gauche anticapitaliste, voire même...
Et l'ultra-droite ?
Alors, l'ultra-droite en tant que Black Bloc, non. Ça se voit à une autre chose, hein, très simplement, c'est les graffitis qui peuvent arriver, qui peuvent être faits sur les murs. En revanche, dans des affrontements avec la police dans d'autres circonstances, par exemple ce qui s'est passé autour des Champs-Élysées le 24 novembre, le 1er décembre, voire le 8 décembre, on avait des groupes d'extrême droite qui étaient présents et qui se sont affrontés avec les forces de l'ordre également.
Et Sylvain Boulouk, comment est-ce qu'on tombe dans cette forme de radicalité ? Vous êtes intéressé par exemple à un cas particulier, Nicolas Fench, c'est celui qui en mai 2016 assène 4 coups de barre à un agent de police qui vient de sortir de son véhicule sur quai de Vamil. Les policiers sont attaqués et ensuite le véhicule est carrément incendié. Il a été arrêté, il a été condamné. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet homme-là, de son processus de radicalisation, je mets des guillemets, mais...
Alors, ce qu'il dit dans entre guillemets ses mémoires, enfin le livre témoignage qu'il a fait sur qui s'appelle du gaullisme au Black Bloc, c'est le fait que en fait il était présent lors des manifestations de la loi travail et ce qui l'a fait se retourner, c'est justement la violence policière, c'est-à-dire qu'il a vu des manifestants se faire taper par les forces de l'ordre, et qu'à partir de ce moment-là, il est rentré en empathie avec les manifestants, en disant « il n'y a aucune raison », et très très rapidement, il est passé dans l'affrontement avec les forces de l'ordre. Alors après, c'est le fait des circonstances aussi qui fait qu'il soit là, et qui passe dans cette logique d'affrontement extrêmement violent.
Et c'est un passage extrêmement rapide.
C'est en quelques semaines, c'est extrêmement rapide.
Oui. Sylvain Boulouk, vous êtes historien, enseignant dans les universités Paris-Nanterre et Cergy-Pontoise. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. On va continuer à s'interroger pour comprendre d'où vient cette violence.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h. Florian Delorme.
Retour à Paris, manifestation, d'où vient la violence ? Sylvain Boulouk est toujours avec nous. Nous parlions en première partie du phénomène Black Bloc, de la radicalisation d'une certaine jeunesse qui, pour part en tout cas, bascule dans l'action violente. On va s'intéresser au processus, aux formes de politisation de la jeunesse et regarder comment il produit ou non de la violence. Nouvelle invitée, bonjour Anne Muxel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur notamment de Politiquement Jeune, mais aussi La Tentation Radicale, enquête auprès des lycéens qui était paru chez PUF. D'ailleurs, on en parlera de cette enquête. Mais d'abord, on a beaucoup parlé en première partie avec Sylvain Boulouk des mouvements Black Bloc. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on assiste à une montée en puissance un peu générale de la radicalité politique dans notre jeunesse française et que donc les jeunes seraient plus enclins qu'auparavant à se tourner vers des formes d'action violente ?
Alors tout dépend ce que l'on appelle radicalisation ou radicalité politique. Si l'on s'accorde sur l'idée que on peut entendre par radicalité le fait de prendre une distance par rapport à la politique institutionnelle, de remettre en cause les rouages de la démocratie représentative et de s'opposer au système politique, alors oui, dans un contexte de défiance politique qui pèse maintenant en France, France depuis un certain nombre d'années, il faut bien voir que les jeunes qui entrent en politique entrent dans ce climat de très forte défiance institutionnelle, de relative décomposition des partis politiques classiques, de brouillage des repères. Alors, effectivement, la tentation radicale peut exister. Mais il y a radicalité et radicalité. Il y a radicalité de protestation et radicalité de rupture qui suppose la violence. Et ça, ce n'est pas la même chose.
Alors, comment se construit, Anne Muxel, le discours de légitimation, justement, de cette violence chez les jeunes? Par quel argument ils considèrent, au fond, que le recours à la violence peut être légitime? Y compris, d'ailleurs, pour ceux qui n'y ont pas forcément recours, je veux dire, mais qui considèrent qu'il est normal, logique, légitime de déployer une certaine violence.
Oui, parce qu'il faut distinguer sur cette question le passage à l'acte et le potentiel, c'est-à-dire le fait que l'on puisse comprendre que la violence puisse être un recours pour se faire entendre. Se faire entendre du pouvoir, des gouvernants qui autrement ne semblent pas à l'écoute. Et il semblerait en tout cas que la légitimité de la violence soit plutôt plus importante aujourd'hui, et que l'on ait en gros dans la population de plus en plus de personnes, et donc y compris de jeunes encore plus, qui considèrent que la violence peut être un recours pour se faire entendre.
Avec des arguments qui sont les mêmes que leurs aînés?
Oui, avec des arguments qui sont les mêmes que leurs aînés d'une certaine façon, si ce n'est que la jeunesse est chargée d'une certaine vitalité, d'une énergie qui peut effectivement susciter un passage à l'acte peut-être plus facile qu'à d'autres âges de la vie. Mais les arguments sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a en face de soi un pouvoir, un ordre établi, une société avec ses règles, ses normes, et le sentiment de ne pas être entendu, et donc cette poussée insurrectionnelle qui évidemment peut conduire à des passages à l'acte violent.
Et alors comment comprendre, et je vous donne la parole Sylvain Boulouk, mais comment comprendre que cette jeunesse, puisqu'elle est plus encline au fond à une forme de radicalité politique, ne se soit finalement assez peu investie dans le mouvement des Gilets jaunes? Il y en a eu bien sûr, mais finalement, quand on regarde les choses, assez peu. Alors, comment le comprendre? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas ce mouvement? Est-ce que ça veut dire qu'ils considèrent qu'en réalité, les modalités de cette mobilisation ne leur conviennent pas, ils s'y retrouvent pas et donc ils y vont pas? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils soutiennent ce mouvement, comme toute une partie d'ailleurs de la population. Certains jeunes ont pu faire partie de certaines mobilisations de Gilets jaunes, mais ça n'a pas été à leur initiative au départ. Hein. Mmh. C'est un mouvement qui est parti d'autres classes d'âge, d'autres milieux de classe moyenne. Ou milieu populaire, c'est un mouvement finalement social, et ce n'est pas un mouvement juvénile, hein, d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que pour autant les jeunes n'aient pas une sympathie pour la mobilisation des Gilets jaunes, et surtout que dans leur cercle proche, au travers de leur famille, de leurs parents, qui peuvent éventuellement être mobilisés, il y ait bien évidemment une certaine porosité.
Ça veut dire que pour qu'ils s'engagent, il faut qu'ils se retrouvent d'une certaine manière dans ce mouvement. Vous dites, c'était pas un mouvement juvénile, c'était pas un mouvement à leur initiative. C'est la raison pour laquelle, au fond, ils ne se sont
Au départ, rappelons-nous, c'était la question quand même des carburants, la question du pouvoir d'achat, toutes ces questions qui ne sont pas des questions qui les interpellent pour l'instant très directement. Quand ils ont à se mobiliser pour le climat, ou quand ils ont à se mobiliser pour des réformes concernant le système éducatif, ou même la question de l'emploi, alors là, peut-être qu'on les trouve davantage mobilisés.
On y reviendra. Sylvain Boulouk, vous voulez réagir?
Sur la question de la violence et du phénomène Gilets jaunes, quand on voit un peu les profils et les visages des gens qui ont pu participer. Alors, c'est toujours fugace, c'est des impressions. Après, c'est les gens qui ont pu être interpellés. Mais on a un public qui est assez différent. C'est plutôt des trentenaires, plus de 20 ans qui travaillent, trentenaires, voire quarantenaires. Plutôt des jeunes... pas forcément des jeunes, mais des ouvriers en phase de déqualification ou des milieux néo-ruraux, entre guillemets, avec d'autres formes de violence et d'autres recours à la violence. C'est-à-dire qu'on est, on est à un mélange entre violence ouvrière, violence paysanne ou violence de tradition paysanne. On n'est pas exactement sur les mêmes registres de la violence. Après, l'autre chose qui a conduit un certain nombre de personnes à se solidariser avec les mouvements, avec le mouvement Gilets jaunes, c'est l'autre forme de violence, donc qui est la réponse, qui sont les violences policières. C'est-à-dire que vous avez, quand vous posez la question à un certain nombre de lycéens ou d'étudiants aujourd'hui, qui sont extrêmement choqués par ce phénomène de violence policière. Et il y a une empathie du coup avec les Gilets jaunes qui est née de ces violences policières, qui, alors qu'au départ, il n'y avait effectivement pas vraiment d'atomes crochus. C'était deux choses tout à fait séparées. La façon dont les choses se sont passées font qu'il y a eu une évolution dans le discours d'une partie des jeunes. Si on prend entre guillemets, le phénomène Black Bloc au départ, il est très peu présent. C'est à partir du moment, alors c'est pour d'autres raisons également, mais c'est seulement dans la deuxième partie du mois, enfin, entre le 1er et le 8 décembre, où il y a une évolution du mouvement, et après toute une bagarre qui existe pour la prise de contrôle des manifestations au mois de janvier, qui fait qu'il y a eu un basculement du mouvement des Gilets jaunes. Mais la question de la violence, c'est pas exactement la même que celle des lycéens qu'on pourrait, et de l'engagement des lycéens initialement.
Si on sort un petit peu de cette actualité immédiate à Muxelles et qu'on regarde un petit peu comment fonctionne cette radicalité politique chez les jeunes et qu'on regarde en particulier comment ils avaient voté à la présidentielle de 2017, on voit une chose, c'est qu'ils avaient assez largement plébiscité les extrêmes, notamment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, y compris d'ailleurs au second tour, puisque 40% des 25-34 ans avaient voté pour la candidate du Rassemblement National. Alors, on dit beaucoup que, évidemment, ces jeunes rejettent toute forme partitaire et qu'ils ne s'y retrouvent pas. Mais enfin, ils vont quand même davantage vers les partis extrêmes. Alors, comment comprendre que cette jeunesse plébiscite à ce point des courants des partis extrémistes, alors même qu'il y a un rejet global pour toute la classe politique ?
Oui, alors d'abord, il faut toujours bien avoir à l'esprit que quand on parle du rapport des jeunes à la politique, il y a des spécificités bien sûr, mais souvent, la plupart du temps, les jeunes amplifient des tendances que l'on trouve dans l'ensemble de la société et qui concernent l'ensemble de l'électorat. Au premier tour de l'élection présidentielle 2017, les forces extrêmes aussi ont recueilli un certain nombre de suffrages, alors que les partis institutionnels et gouvernementaux étaient à la peine. Donc voilà, c'est 10 points de plus chez les jeunes, c'est une amplification, mais c'est quand même, leur politisation s'inscrit quand même dans une évolution d'ensemble du rapport aux partis politiques. Et donc ce qui s'exprime là, c'est une forte protestation à l'encontre du système politique. Ce sont aussi des revendications, des demandes qui évidemment ne sont pas les mêmes au travers de la France insoumise ou au travers du Rassemblement national, Front national à l'époque, mais malgré tout qui exprime un rejet et une défiance extrême à l'égard des propositions des partis gouvernementaux, des forces gouvernementales.
Mais alors justement, Anne Muxel, il y a ce rejet et en même temps assez peu de mobilisation derrière. Ils plébiscitent les extrêmes lors des votes, mais lorsqu'il s'agit d'aller se mobiliser contre la politique gouvernementale, en particulier pour un Emmanuel Macron qui incarne justement précisément le centrisme, dont tout ce qu'au fond il rejette. Et ils sont assez peu mobilisés. Regardez, sur la loi travail, ils n'étaient pas particulièrement présents, ces jeunes.
Bon, ils se sont quand même mobilisés.
Je dis pas qu'ils ne sont pas mobilisés, je dis qu'ils n'étaient pas particulièrement présents.
La loi travail, c'était pas Macron, c'était François Hollande.
Pardon, excusez-moi, vous avez raison.
Mais simplement, moi, ce qui me frappe, c'est la relative indifférence, finalement, des jeunes vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'arrive pas à attirer leur vote, et Emmanuel Macron n'arrive pas non plus particulièrement à attirer leur protestation, leur mécontentement, autrement qu'au travers, effectivement, de ces forces extrêmes. Finalement, ils sont assez indifférents vis-à-vis de la figure d'Emmanuel Macron.
Sylvain Boulouk.
Oui, il y a une autre dimension pour compléter, c'est que c'est tout le phénomène de l'abstention qui est encore plus massif dans cette catégorie de la population, qui va en se massifiant dans le reste de la population également. Et pour relier les questions de violence, ça explique aussi le nombre de personnes qui sont de plus en plus défiants vis-à-vis des institutions et qui sont prêts à participer participer à des mouvements de type, alors c'est encore très minoritaire, mais qui sont prêts à participer à des mouvements de type insurrectionnel, ou puisque cette défiance vis-à-vis des institutions, comme les institutions de toute manière ne représentent plus rien et que l'État n'a plus le monopole de la violence légitime à leurs yeux, à partir de ce moment-là, il y a tout ce phénomène qui existe de, alors qui reste, il faut relativiser, on n'est même pas dans les années 70, hein, par rapport à ce qu'on pouvait voir des manifestations de la Ligue communiste ou de la gauche prolétarienne dans les années 70. Mais il y a cette défiance anti-institutionnelle qui existe et qui prend d'autres formes justement que celles qui pouvaient exister auparavant.
Anne Muxel, vous aviez réalisé une étude qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre La tentation radicale, enquête auprès des lycéens, sur le degré de pénétration des idées radicales dans la jeunesse française. Quelles sont les principales leçons qu'on peut en tirer ?
Alors, c'est que la jeunesse peut se sentir attirée par les idées radicales. Ça ne veut pas dire pour autant que toute la jeunesse va passer à des actes violents. Hein. Et donc là, ce qui caractérise vraiment aujourd'hui la jeunesse actuelle en France, c'est cette culture protestataire. C'est-à-dire, la jeunesse va manifester, c'est devenu un comportement tout à fait légitime, une expérience, je dirais, quasi familière pour la jeunesse, au travers notamment de toutes les manifestations lycéennes qui ont pu avoir lieu et à laquelle la plupart des lycéens de ce pays ont pu participer. Donc cette culture de la protestation, dans l'enquête, on avait pu évaluer que, par exemple, plus d'un lycéen sur deux considérait qu'il était tout à fait acceptable de bloquer un lycée pour faire entendre ses revendications au gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment banalisé. Hein. C'est cette culture, cette diffusion de cette culture protestataire. Après, le passage à la violence, à une radicalité de rupture, concerne une minorité. Hein. C'est un jeune sur cinq à peu près, c'est ce que l'on a pu mesurer, et puis c'est ce que l'on retrouve dans beaucoup d'études. Un Français sur cinq aussi aujourd'hui considère que la violence pourrait être peut-être acceptable pour défendre ses intérêts. C'est mesuré par certaines enquêtes récentes.
Avec des profils sociologiques particuliers ?
Avec des profils sociologiques particuliers, oui, en tout cas dans notre enquête, on a pu mesurer que les jeunes qui se sentaient par exemple plus discriminés dans leur rapport notamment à l'institution scolaire, des jeunes qui étaient plutôt dans des filières professionnelles avaient peut-être un peu plus de propension, hein, à adopter des positions plus radicales, mais ce n'est pas si évident que cela. Hein, je dirais que ce ne sont pas forcément les variables sociologiques, les dispositions sociales et socio-économiques des individus qui caractérisent peut-être ce passage à la violence. Et on l'a bien vu notamment, mais je pense que Sylvain Boulouk pourra le confirmer, notamment au travers des Black Blocs. Quand on regarde un peu qui sont ces Black Blocs, ce ne sont pas particulièrement des individus marginalisés, peu diplômés, non, ce n'est pas ce qui les caractérise particulièrement. Alors, il faut aussi distinguer, et on n'en a pas parlé, je pense, depuis le début de cette émission, c'est les jeunes qui ont pu être engagés, par exemple, dans les émeutes urbaines. Hein, c'est vrai que là, il y a un autre profil, un autre type de violence qui peut s'exprimer, une violence, on va dire, proto-politique, et là, qui est une violence qui est moins articulée à des positionnements politiques et qui peut s'exprimer dans la jeunesse à tout moment.
Sylvain Boulouk ?
Non, mais oui, c'est-à-dire que pour le phénomène Black Bloc, c'est beaucoup plus tous les groupes sociaux sont à peu près peuvent participer potentiellement à ce phénomène. Après, effectivement, il y a un deuxième type de violence qui n'est pas du tout le même, qui est celui des violences, ce qu'on appelle les violences urbaines, même s'il y a un ferment qui peut exister et qu'on retrouve, qui est un peu un fil conducteur, qui est le problème du rapport à la police, puisque c'est quand même une tendance qu'on retrouve partout dans toutes les enquêtes et dans tous les témoignages, c'est de dire moi je suis passé entre guillemets à l'acte parce que je cite hein, les bacs m'avaient tapé dessus pour faire vite. Donc il y a vraiment cette animosité qui est extrêmement forte, qu'on mesure pas forcément au départ, mais qui est extrêmement forte vis-à-vis des forces de l'ordre et qu'on retrouve là, actuellement dans le mouvement des gilets jaunes avec des particularités en fonction des personnes qui vont s'engager dans la violence, mais on a vraiment ce phénomène-là qui est très présent. Alors, pas forcément chez les Black Blocs où il y a une culture de la violence en tant que telle, mais chez d'autres groupes, c'est très présent.
À Nuxelles, il y a maintenant un engagement qui se fait de façon de plus en plus claire du côté de la jeunesse, c'est l'engagement pour le climat. Ces dernières semaines, c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de mobilisations. Les lycéens, les étudiants sont descendus dans la rue pour demander à leur gouvernement des actions beaucoup plus fortes en matière d'écologie. Est-ce qu'il faut comprendre que l'environnement, c'est en train de devenir la priorité désormais pour la jeunesse et que à l'avenir, c'est par ce prisme-là que se fera leur politisation ?
En tout cas, c'est un enjeu qui maintenant prend une certaine place dans la prise de conscience politique, d'ailleurs, que peuvent faire les jeunes générations. Mais on voit cet enjeu monter aussi dans l'ensemble de la population. Des sondages assez récents montrent aussi que c'est une préoccupation, notamment à l'occasion des élections européennes, montrent que quand même cette question environnementale est une préoccupation maintenant qui a une incidence hein, sur le vote.
Plus
de ceux qui vont voter. Alors, ça préoccupe plus les jeunes, peut-être, un peu plus, ou plus exactement, d'autres, ça prend peut-être plus de place parce que d'autres enjeux les préoccupent moins, je dirais plutôt les choses comme ça. Mais il est évident que cela va constituer un pôle, en tout cas un pôle de politisation pour les générations qui viennent.
Et oui. Est-ce que cette mobilisation pour réorienter les politiques environnementales, elle est partagée par tous les jeunes ou est-ce qu'elle se heurte là aussi à des clivages politiques, à des clivages socio-économiques ?
Oui, on a pu montrer que dans certaines études, dans certaines enquêtes, qu'effectivement, c'est plutôt la jeunesse étudiante, la jeunesse urbaine hein, qui apparaît plus mobilisée sur ces questions environnementales que la jeunesse rurale ou que les jeunes déjà, par exemple, engagés dans la vie active et dans la vie professionnelle ou de jeunes peu diplômés. Il y a effectivement un clivage lié au diplôme qui peut traverser la jeunesse sur cette question, mais je dirais que je ne suis pas sûre que ce soit un clivage durable. Hein, et je pense que d'ailleurs on voit certains leaders de forces politiques extrêmes se saisir de l'enjeu environnemental à leur tour. Je pense notamment à Marine Le Pen très récemment, et donc on voit bien là qu'elle sait que, y compris dans son électorat, dans les catégories de la population qu'elle peut toucher, c'est aussi maintenant une question qui préoccupe les gens.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer peut-être sur les nouveaux modes d'action qui sont inventés justement par cette jeunesse en matière d'écologie, et est-ce que ces nouveaux modes d'action peuvent les faire basculer dans une forme de radicalité, dans une forme de violence ? Est-ce que c'est favorable à ce genre de choses, ce genre de phénomène ?
En tout cas, s'il n'y a pas de réponse, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme d'impatience. Et s'il n'y a pas de réponse, évidemment, ça peut susciter de la part des jeunes le passage à des comportements plus radicaux, voire à la violence pour se faire entendre. Bon, les jeunes savent déjà très bien utiliser un certain nombre de moyens. Je pense aux réseaux sociaux, pense à tout ce qui peut effectivement être fait au travers de l'outil numérique, hein, qui est du coup un démultiplicateur de mobilisation, de prise de conscience. Mais ça peut aussi très bien passer par des manifestations qui peuvent prendre une tournure plus violente, ou des actes symboliques qui peuvent être menés pour attirer l'attention non seulement des gouvernants, mais attirer une sorte de prise de conscience au niveau mondial. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce mouvement, cette mobilisation des jeunes sur le climat, finalement, elle ne s'adresse plus à l'échelon des pouvoirs nationaux, ni même des pouvoirs européens, mais elles embrassent en fait et interpellent un échelon mondial.
Raison pour laquelle ils ne votent pas davantage ces jeunes pour les partis écologiques, en tout cas au niveau national. Sylvain Boulouk.
Oui, non, l'autre chose, c'est qu'on est devenu, on est dans une société hyper médiatisée, hyper connectée. Donc, pour qu'une action fonctionne, il faut qu'elle ait un impact médiatique immédiat ou en tous les cas très rapide. Donc, on voit bien qu'aussi, pour avoir une action qui marche, il faut que cette action, on peut reprendre un certain nombre de codes qui pouvaient être issus du situationnisme, mais il faut que cette action soit symboliquement très, très forte et très visible. Donc, ça sous-entend différentes formes. Ça peut être juste très spectaculaire, une occupation ou quelque chose sans rapport avec la violence. Mais la violence fait partie des moyens de médiatisation relativement rapide pour être certain d'avoir un écho et un impact immédiat ou quasiment immédiat.
Vous disiez à Nuxelles que vous étiez frappé de voir que finalement cette jeunesse pour les questions écologiques s'adressait à un niveau supérieur au niveau national. Est-ce que c'est quelque chose qu'on perçoit justement dans les votes de la jeunesse pour les élections européennes? Il va y en avoir là dans quelques semaines maintenant. Est-ce que, on ne vote pas beaucoup plus pour les élections nationales ou pour des partis écologistes en France. Est-ce que, en revanche, quand il s'agit d'élections européennes, là, oui, on se tourne vers des écologistes? C'est aujourd'hui la clôture des candidatures pour les partis au niveau des européennes. Il se trouve qu'il y a précisément une liste Allons enfants qui est portée par les jeunes. Comment comprendre que, dans le cadre européen, cette jeunesse soit tout à fait disposée, visiblement, alors probablement pas tous, mais en tout cas une partie, disposée à rentrer dans des logiques purement partitaires, purement institutionnelles?
Alors, les jeunes qui vont voter, parce que le problème des élections européennes, c'est que vraiment, c'est une minorité des jeunes qui vont voter. Au mieux, ce sera 3 jeunes sur 10 qui vont aller voter pour les élections européennes. Alors, dans ces 3 jeunes sur 10, effectivement, il y en aura sûrement un certain nombre qui vont voter pour des formations écologistes, plus que dans l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas non plus un vote massif de la part des jeunes. Je pense que dans les derniers résultats d'intention de vote que j'ai pu observer, la liste, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts fait 2 fois plus chez les 18-24 ans que dans l'ensemble de la population. Mais ce n'est que 2 fois plus. Donc, en fait, les jeunes, aujourd'hui, je pense, ne considèrent pas que la voie électorale est la plus adéquate pour s'exprimer et en tout cas pour mobiliser et l'opinion et les gouvernants sur des problèmes tels que ceux de l'écologie.
Mais alors, quelle est la bonne voie pour eux? Parce que on comprend, la voie partitaire, c'est pas vraiment la bonne voie. La voie des mobilisations, pas vraiment non plus. Il y a eu effectivement des manifestations dans la rue, on l'a dit au mois de mars, avec effectivement pas mal de monde. Il y avait 30 000 participants sur la première mobilisation. Il y en avait plus que 200 ou 300 sur la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que ce mode de contestation, au fond, ils ne s'y retrouvent plus, ces jeunes. Et est-ce que ça veut dire que, en fait, il y a d'autres espaces, d'autres lieux de contestation par lesquels, justement, ils font entendre leur voix, mais que nous n'entendons pas, que nous ne voyons pas?
Je pense que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est sûrement très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'échanges, beaucoup de mobilisation sur les réseaux sociaux, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'inventivité aussi, et notamment par l'humour, par des détournements, de toutes sortes de messages. Il y a effectivement des alertes qui circulent, des films qui circulent, de prise de conscience que les jeunes regardent beaucoup. Alors après, la question de la mobilisation, c'est toujours la question de l'activisme aussi en politique. On sait bien que ce ne sont pas tous les jeunes et ni tous les citoyens qui vont à un moment donné, même dans des périodes révolutionnaires, se mobiliser. Ce sont toujours des minorités.
Sylvain Bouloc.
Oui, puis il y a globalement, on n'est plus à l'ère des grandes organisations de masse. Il y a un individualisme grandissant qui fait que il y a moins d'engagement que ce qu'il pouvait y avoir il y a 30, 40 ans où il y a vraiment un repli sur soi avec d'autres formes d'échange donc qui sont par les nouveaux moyens de communication. Mais il y a quand même globalement un repli sur soi dans les formes d'engagement, hein, puisque quand on regarde l'engagement en tant que tel, celui tel qu'il existait auparavant, il y a une diminution très très forte. Je vais prendre juste un exemple.
Ce qui explique qu'ils sont très peu présents, par exemple, dans les syndicats ou même dans les associations universitaires.
C'est ce que j'allais vous dire. Puisqu'on en parlait au début de l'émission, le service d'ordre de la CGT, il y a quelques années, c'était 1000 personnes pour protéger le cortège de la CGT. Aujourd'hui, ils avaient du mal à avoir 100 personnes pour un service d'ordre. Donc ça traduit quelque chose, hein, ça traduit un désengagement. On voit très bien sur les taux de syndicalisation, par exemple, un déclin, et ce déclin dans les catégories les plus jeunes est encore plus fort que dans d'autres groupes d'âge.
Mais comment le comprendre ? Parce qu'après tout, les syndicats sont aussi là, évidemment, pour défendre les travailleurs précaires. La jeunesse, la précarité, elle connaît, alors elle devrait s'engager dans les syndicats.
Il y a vraiment une crise des médiations politiques. Je crois qu'aujourd'hui, la défiance se porte à l'endroit de toutes les médiations de la politique, quelles que soient des médiations syndicales, des médiations partisane, et il y a effectivement cette individualisation du rapport au collectif qui n'est pas, du rapport à la politique, pardon, qui n'est pas simplement un repli, un abandon. Je pense que cette individualisation, elle s'articule de façon différente au collectif et elle produit quand même des mobilisations.
Oui, mais voilà. Sous d'autres canaux, qui sont en train d'être créés, donc on a en plus du mal à les mesurer, parce que c'est vraiment en voie d'invention. Donc on ne sait pas comment ça va. C'est vrai que les pétitions en ligne, avant ça n'existait pas. Maintenant, ça atteint très rapidement des mobilisations.
C'est-à-dire que la sensibilisation, elle se fait de façon individuelle, hein, et après elle débouche effectivement sur des mobilisations collectives, des interventions collectives, mais qui sont nouvelles. On est vraiment dans un moment de transition, dans un moment charnière, et on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans les habitudes de politisation future.
Ça va produire Sylvain Bouloc.
Oui, donc. Non, j'allais continuer sur la mobilisation. Se fait beaucoup plus avec un clavier aujourd'hui qu'elle ne pouvait se faire auparavant par des mobilisations de rue. Il y a un changement de dimension et un changement. Comme on est en plein changement, il est difficile de mesurer exactement ce qui va advenir par la suite. Mais c'est vrai qu'on voit les feeds Twitter ou les comptes Facebook, c'est quelque chose de encore relativement nouveau et difficile à mesurer complètement.
Et difficile à en mesurer aussi les effets, parce que c'est toute la question aussi. Oui. Mais en tout cas, ce que je comprends par rapport à ce que vous dites sur le manque d'engagement de la jeunesse dans les syndicats, dans les associations, etc., c'est qu'au fond, cette violence dont on parle là dans les manifestations, c'est aussi le révélateur, tout simplement, d'une crise du dialogue social, en réalité. Et c'est une évidence, mais il faut peut-être le redire, Anne Muxel.
Oui, enfin bon, il y a eu dans le temps aussi des violences, des manifestations violentes, où les syndicats et les partis politiques étaient pourtant bien là. Je pense qu'on est en train de connaître une période où les jeunes générations doivent se politiser dans un contexte de forte défiance institutionnelle. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est en train de s'inventer et qui produit toutes sortes de comportements, que ce soit dans les urnes, dans la rue, dans les réseaux sociaux, de comportements que l'on observe, mais qui pour l'instant ne sont pas si faciles que cela à décrypter, en tout cas à décrypter de façon univoque.
Sylvain Bouloc.
Oui, non, je partage ce constat. On est à un carrefour entre, je ne vais pas dire ancien monde et vieux monde, parce que ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais il y a une transformation des modes de mobilisation et de communication qui fait qu'on ne sait pas encore techniquement réellement les mesurer et voir quels vont être les impacts à l'avenir. On est vraiment pour l'instant à la croisée des chemins.
Eh bien, on suivra évidemment toutes ces affaires-là parce que ce sont évidemment des questions qui vont revenir très régulièrement sur le devant de la scène. Merci beaucoup Anne Muxel. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur notamment de Politiquement Jeune, qui était paru aux éditions de l'Aube Fondation Jean Jaurès, mais aussi La Tentation Radicale, enquête auprès des lycéens. C'était chez PUF. Avec Olivier Galland, absolument. Et puis Sylvain Bouloc, merci beaucoup aussi de nous avoir éclairé sur ces phénomènes de violence dans les manifestations.